Quatre ans avant la soutenance de thèse sur le concept d'ironie, Kierkegaard suit le cours de dogmatique spéculative de Hans Larsen Martensen et les notes du cours, pour être précis, du 15 décembre 1837, concernent les trois preuves de l'existence de Dieu, cosmologique, physico-théologique ou téléologique, et enfin, plus importante, ontologique. Cette dernière, soulignait Martensen, n'apparaît que dans le monde chrétien, chez saint Anselme. Et l'étudiant Søren Kierkegaard, il a 24 ans, ajoute en marge de son texte une incise de son cru, je cite, « Par là, il n'est pas dit que Dieu existe parce que je pense Dieu, mais que je dois penser Dieu parce que la pensée de Dieu est en moi. » Fin de citation. Concernant cette pensée qui est en moi et cette obligation de penser Dieu, complément d'objet direct, cogitare deum, je voudrais ici simplement, si on peut dire, retracer le chemin parcouru depuis ce Kierkegaard d'avant Climacus jusqu'au Kierkegaard d'après Climacus. Pensant à cette formule dont j'ignore l'auteur, mais je l'ai entendue et je vous la donne, pour le chrétien, nul ne va au Père que par le Fils. Pour le philosophe, ne va au Dieu que par l'idée. Il faut donc penser Dieu. Cogitare Deum. Penser Dieu, c'est bien se faire de Dieu une idée, mais qu'entendre par idée. Connaissant les pièges que tend le vocabulaire, Kierkegaard, qui a lu Kant, s'agissant de catégories ou de concepts et d'idées, c'est ce qu'il en est, et il lui arrive de tourner la difficulté en se contentant de représentation, formule, ou détermination, bestemmelse. Quoi qu'il en soit, s'agissant de Dieu, philosophiquement, il faut commencer par se situer par rapport à l'histoire de cette idée, et non pas au nom de Dieu, ou aux attributs de Dieu, au sens du « de divinis nominibus », des théologiens et des pères grecs. Et dans les Philosophica, auxquels je vais faire beaucoup de références, et nous devons la traduction à Henri-Bernard Vergotte, les textes Philosophica d'avant Climacus, 1841-1844, se mettent en place le dispositif qui sera exploité dans les miettes philosophiques. Et on y voit Kierkegaard traité d'égal à égal avec Aristote, et surtout avec les philosophes du XVIIe siècle, le grand rationalisme, comme disait Merleau-Ponty. Le XVIIe siècle, Descartes, évidemment, Malebranche, Spinoza, Leibniz, penseurs de la liberté humaine et de l'infini divin. Kierkegaard salue le courage, et il dit même le pathos, dont témoigne la pensée des pré-kantiens, qui ne cesse de travailler l'argument ontologique. « La pensée de Dieu est en moi », écrivait Kierkegaard. Ce que Kierkegaard apprécie chez le moine de l'abbaye du Bec, pas très loin d'ici, dans l'Eure, puis archevêque de Canterbury, c'est qu'il commence par se mettre en prière. Et on en a parlé ce matin. Se mettre en prière pour demander à Dieu son aide dans la confection de la preuve. On dit confectionner une preuve comme on confectionne un tissu, un costume. Et on administre aussi la preuve, comme on administre une société ou les sacrements. Alors il commence par se mettre en prière, lui demander son aide pour la confection de la preuve. Cela, dit Kierkegaard, c'est la meilleure preuve de l'existence de Dieu. C'est pourquoi il faut commencer à nouveau à parler de la prière. Autre texte de Kierkegaard, 10.4 à 210, non traduit en français, je pense, et un autre aussi. Ce qui m'intéresse chez saint Anselme, c'est qu'il met en valeur le moment ascétique requis pour un penseur, pour être un penseur. Avant d'en venir à l'argument ontologique, cette observation me suggère de faire référence à l'éthique et la dialectique de la communication éthico-religieuse. 7.8.2b.81, qui n'est pas traduit dans les œuvres complète, qui ne commence la traduction qu'à 8.2b.86. C'est la traduction, donc, n'existe pas. Demander ce qu'est l'éthique, dit Kierkegaard, c'est déjà questionner de manière non éthique. Unethisk. L'éthique ne commence pas par l'ignorance, pour se transformer en savoir. Elle commence avec un savoir et elle exige la réalisation. Laquelle est affaire de vouloir. On en parlait ce matin, c'est Pattison, question de vouloir. Comment ne pas penser au discours sur la pureté du cœur? Vouloir l'un, vouloir le bien, c'est échapper au désespoir. Le faible qui ne peut se détacher du mal, comme le téméraire qui ne peut se détacher du bien, sont désespérés, car ils sont partagés entre deux volontés. Et le même texte de 1847 poursuit, et je sous le titre, « Comment maintenant, entendons donc maintenant en éthique, se transforme la dialectique de la communication ?» Et il dit, « L'objet disparaît, l'émetteur disparaît, le récepteur disparaît, ne reste qu'un seul émetteur, Dieu. » 8.2b, 81, 11. Et il n'y a, je cite toujours, de tâche éthique que là où un homme se trouve seul en rapport avec Dieu. Pour Anselme, comme pour le croyant luthérien, le moment ascétique inclut évidemment la prière. Or, pour Kierkegaard, la prière est d'abord et essentiellement un acte d'adoration. Et l'adoration ne va pas sans admiration, qui est le contraire de la jalousie, comme l'adoration est le contraire du scandale, dit la maladie à la mort. Pour l'homme religieux qui s'est dégagé de la relativité de l'immédiateté, la représentation de Dieu le consume comme le feu du soleil d'été qui ne veut pas faiblir. La dite représentation, donc représentation Vorstellung, ne relève pas de l'immédiateté, et ici aussi, je cite, « Dans sa vérité, la dialectique est une puissance amicale et secourable qui découvre et aide à trouver où se trouve l'objet de la foi et de l'adoration, où est l'absolu, à savoir là où s'écroule la différence entre savoir et ne pas savoir dans l'adoration absolue du non-savoir. » Nous avons donc, c'est le texte du post-scriptum, hein, nous avons donc un savoir, widen, un non-savoir, ich widen, et un non-savoir au sens de unwidenheit. Il y a là trois choses. Et c'est cette dialectique-là qui permet que l'adoration absolue puisse avoir lieu. La dialectique, je cite encore, la dialectique elle-même ne voit pas l'absolu, mais elle conduit en quelque sorte l'individu vers lui et dit, c'est ici qu'il doit être. Qu'il doit être. Si tu adores ici, alors tu adores Dieu. Il s'agit donc du fameux rendre attentif l'homme à qui on s'adresse pour lui dire où aller. Quel est cet hic et nunc, cet ici et maintenant? Et je cite encore 8A, cette fois-ci le journal, 8A579. On peut par la compréhension, cette fois-ci c'est plus seulement une représentation, c'est une compréhension, c'est begriebende, on peut en comprenant, on peut par la compréhension engager la pensée à être attentif jusqu'au moment où il faut lui crier, crois maintenant, jette-toi à genoux en adoration et crois. La dialectique de la communication, ici décrite, est rendue possible et même nécessaire par une certaine représentation, une certaine compréhension, begriebende, certaine compréhension de Dieu qui précède et accompagne l'adoration. Et à propos de ce texte du post-scriptum sur l'adoration, Jean Val évoquait Jean de la Croix. On a parlé aussi de mystique ce matin. Alors que les théologiens protestants comme Althaus ou Barth préfèrent ne parler que de Glaubensmystik. C'est plus qu'une nuance. Et de même, dans une lettre adressée à Jean Val, Paul-Henri Tissot lui disait ses réticences à voir chez Kierkegaard, parlant du feu consumant, une exaltation de type mystique, teintée, disait-il, d'esthétisme et d'illusion. Concernant donc ce passage remarquable où il y a savoir, absence de savoir puis non savoir, plutôt que de parler de mystique immédiatement, et il me paraît préférable et peut-être suffisant de se reporter à Nicolas de Cuse. C'est ce que faisait un des premiers commentateurs bien connus en Allemagne, Emmanuel Hirsch. De se référer à Nicolas de Cuse, comme Nietzsche le faisait, la coincidentia oppositorum, savoir et non savoir, signifie une synthèse, et en tout cas une unité, de savoir et d'absence totale de savoir, ich widen, que recouvrirait le non-pensable, qui est peut-être la ruine de la pensée, dont parle Lemiette. J'en viens maintenant au pathétique et au dialectique. Cette perte de pensée est aux antipodes, évidemment, du pathos philosophique. En effet, 4C12, donc c'est toujours les textes traduits par Vergotte, du passage pathétique de l'essence à l'existence, on ne peut rien tirer dialectiquement. Ce qui s'impose, je cite toujours, c'est de se saisir de l'être de fait et d'introduire dialectiquement l'idéalité de Dieu dans l'être de fait. Je traduis comme Vergotte, n'est-ce pas ? Tilverus. On peut ici faire un sort particulier à Spinoza et Leibniz. Quand Spinoza définit Dieu comme la substance en laquelle s'exprime une essence éternelle et infinie, il redit ce que le court traité du même Spinoza avait formulé autrement, je cite, « Dieu est le sujet de tout ce que j'affirme de lui, de sorte que s'il n'existait pas, je ne pourrais absolument rien affirmer de lui. » Mais il ajoutait, « Et je trouve aussi qu'il doit être le sujet de toutes les autres choses, le sujet de toutes les autres choses. » Et puisqu'on va en venir pour terminer avec la subjectivité infinie qu'on retrouve chez Hegel et chez Kierkegaard, je tenais à citer ce texte de Spinoza. « Et je trouve aussi qu'il doit être le sujet de toutes les autres choses, sujet qui sa subjectum » dans le latin de Spinoza, qui réapparaîtra comme « subjectivitate ». Spinoza. Leibniz aussi mérite une attention particulière aux yeux de Kierkegaard. C'est lui, en effet, je cite, « qui, mieux que quiconque, a distingué deux sortes de vérités, celle de raisonnement et celle de fait. » Monadologie, paragraphe 33. Ce qui est capital pour celui qui, en toute chose, Kierkegaard, s'acharnera à en dire plus sur l'existé de fait. Deuxième grand mérite de l'auteur de la Théodicée, cette fois-ci, la distinction de ce qui est au-dessus de la raison et ce qui est contre la raison, que cite le fragment 4C29 et qui conclut « Hegel, je crois, n'a jamais rien bien compris ce dont il s'agit chez Leibniz. » Vous voyez, le jeune étudiant sait de quoi il retourne et il veut aller. De la concaténation des vérités selon Leibniz, Hegel a fait la médiation. À quoi, dit Kierkegaard, j'ai coutume d'opposer le paradoxe. Et mais il faudra aller plus loin que Leibniz et ne pas se contenter de parler de mystère. Ce qui est contre la raison met la sagesse en déroute quand elle se heurte à ce qui est scandale pour les juifs et folie pour les chrétiens. 1 Corinthiens 1:22, cité moult fois dans le post-scriptum et ailleurs. Alors, il manque de dialectique, ces grands penseurs d'avant Kant. Et certes, Hegel, quant à lui, a rendu vigueur à la dialectique. Mais, disent aussi ces textes des Philosophica, il se trouvera simplement ramené au point où l'on commençait naguère, Leibniz par exemple, 4C73. Et Hegel n'a jamais justifié la catégorie de passage. Là, évidemment, de grandes études précises seraient nécessaires sur la qualité, sur le concept de passage. Übergang chez Hegel, je me permets simplement de signaler dans l'Encyclopédie des sciences philosophiques, dans le concept préliminaire au paragraphe 50, à propos justement des preuves de l'existence de Dieu, Hegel parle du sceau en opposant Spinoza et Jacobi. Alors donc, Hegel est incapable, selon Kierkegaard, de justifier la catégorie de passage dans sa radicalité. Et c'est ce qui lui permet, d'ailleurs, d'élaborer une gigantesque philosophie de la médiation, laquelle, dès la phénoménologie de l'esprit, avant même donc l'encyclopédie, englobe une philosophie du christianisme. La religion et la foi chrétienne trouvent leur place dans la phénoménologie de l'esprit, dans l'histoire, non pas l'histoire seulement des 18 siècles, mais l'histoire de 25 siècles. Et il situe le christianisme en articulant donc avec le paganisme et le christianisme, la religion de l'art et la religion révélée, dite absolue. L'esprit absolu se fait conscience de soi et être là, dans le monde. C'est l'incarnation. Ce qui échappe totalement à Hegel, dit Kierkegaard, c'est qu'une philosophie qui a affaire au christianisme ne peut s'achever qu'en se développant, je cite, dans la pureté de l'idée. Vous voyez, on est toujours dans cette discussion proprement philosophique, dans la pureté de l'idée, en ayant toujours sous les yeux le paradoxe du Dieu-homme, dont l'existence terrestre ne tombe pas sous le métaphysique ou sous l'esthétique. 4C84. Donc je suis toujours dans les mêmes textes. L'idée même de Dieu apparaît du fait d'un passage dialectique par un sceau. Et je cite, « L'idée de Dieu qui apparaît par un sceau, c'est ce qui résulte, resultare, qui veut dire sauter en arrière, c'est ce qui résulte des preuves de l'existence de Dieu. » Donc l'idée de Dieu apparaît par un sceau, sauter en arrière, des preuves de l'existence de Dieu. Sinon, on n'y accède pas par un sceau. On sait comment Climacus disait avoir trouvé le sceau chez un nommé Johannes de Silencio. Mais après coup, il l'a trouvé chez Lessing. Avant que Lessing ne me tombe dans les mains, dit-il, j'ai lu Johannes de Silencio. Mais Lessing est tout de même celui qui l'a rendu plus attentif au sceau en tant qu'expression, je cite, lyrique de la pensée, en laquelle se laisse pressentir l'unité de la plaisanterie et du sérieux, en dehors de quoi on n'a affaire qu'à des philosophèmes relevant de la pensée immanente. Là apparaît le terme de philosophème dans le danois de Kierkegaard. Il ne faut pas oublier, me semble-t-il, que c'est à Jacobi que l'on devait l'apparition du sceau en philosophie, ce salto mortale que je dois sans doute, disait Jacobi, à mon idiosyncrasie non philosophique, meine unphilosophische Eigensinn. Cette singularité revendiquée par Jacobi, il la devait, disait-il, je le cite encore, à ma philosophie du non-savoir. Et je ne serais, c'est dans la lettre à Fichte, n'est-ce pas, de Jacobi, dans les œuvres complètes. Et cette philosophie du non-savoir, je ne serais pas froissé, mon cher Fichte, si vous appeliez cela chimérisme. Chimère, donc, pour Jacobi, non pas paradoxe, mais chimère. Seul rempart qu'il croyait devoir opposer à l'idéalisme pour l'empêcher de sombrer, non pas seulement ou d'abord dans le panthéisme ou le théocentrisme, spinoziste, mais plus dramatiquement encore, plus grave aux yeux de Jacobi, sombrer dans le nihilisme. Donc le mot apparaît ici pour la première fois et que reprendra Paul Martin Müller. Un dernier mot sur Kierkegaard, philosophe, avant d'en venir à Kant. La spéculation scientifique, écrit encore Kierkegaard, c'est toujours dans ces textes-là, je pense bien. Oui, c'est. Mais cette fois-ci, c'est dans les textes qui ne sont pas traduits par Vergotte. C'est 8.1.C.1, de mars 45. Il n'a traduit que jusqu'en 44. La spéculation scientifique, je cite, détend tout en une méditation tranquille et objective et fait de la liberté un je ne sais quoi inexplicable. Scientifiquement, Spinoza reste le seul penseur absolument conséquent. Ailleurs, Kierkegaard cite à nouveau Spinoza, les Cogitata Metaphysica de 1663. Je cite, la conciliation, donc Spinoza, la conciliation de notre libre arbitre avec la prédestination de Dieu dépasse la compréhension de l'homme. On a parlé ce matin aussi de providence et prédestination, et de jansénisme d'ailleurs l'autre jour. La conciliation de notre libre arbitre avec la prédestination de Dieu dépasse la compréhension de l'homme, dit Spinoza, et Kierkegaard reproduit la citation, et il ajoute en marge, il y a tout de même là quelque chose de pathétique de reconnaître de l'incompréhensible. Où fausto eli. Comme sur ce point, d'ailleurs, de la prédestination, Descartes et Leibniz disent la même chose que Spinoza. Hein, Descartes, principe 1, 40. Leibniz, Théodicée 3, 365. Et Kierkegaard s'incline devant le pathos des grands esprits d'une époque où l'on se sentait tenu en philosophie de penser Dieu, non de pleurer sur les dieux enfuis, ou d'attendre la venue d'un nouveau Dieu, nur ein Gott kann uns retten. Venons-en à Kant. Le chemin, Kant dont disait je ne sais plus qui, en termes ferroviaires, c'est une plaque tournante. Le chemin qui va de Spinoza à l'idéalisme absolu, Hegel, ne pouvait pas ne pas enfreindre l'interdit kantien, qui qualifie d'illusion naturelle et inévitable l'usage spéculatif des concepts de la raison pure. Contre Spinoza, donc, essentia in volvit existentia, Kant pense honnêtement l'existence, comme n'entrant pas dans un concept. En effet, les idées de la théologie transcendantale sont sans objet, elles ne pointent que vers un focus imaginarius, diacritique de la raison pure, elles ne valent qu'à titre de principe régulateur de la raison spéculative. Comme l'immortalité ou la liberté, l'idée transcendantale de Dieu n'a de réalité objective, ne devient immanente, donc, et constitutive, qu'en vertu de postulats de la raison pratique. L'usage régulateur, loin de produire quelle extension de l'idée, est justement purificateur et donc négatif. Il permet d'écarter toute superstition, c'est un critique de la raison pratique, d'écarter toute superstition quant au contenu des concepts et tout fanatisme religieux relevant de l'intuition suprasensible ou du sentiment. À deux reprises, les notes de Kierkegaard du cours de Martensen mentionnent le concept régulateur, mais sans référence à la critique de la raison pratique, qui est curieux, que je viens de citer. Donc uniquement le principe, le concept régulateur à propos et concernant l'exercice de l'entendement. Or, c'est par référence à cette idée kantienne de concept régulateur que George Pattison, dans un article remarquable, a proposé d'éviter à la théologie toute visée d'ordre ontologique. Il invoque au passage l'occamisme anglais, et de donner, à l'aide du concept, de l'idée du concept régulateur, une interprétation non pas de l'idée transcendantale de Dieu, mais du devant Dieu, selon Kierkegaard. Or, le principe régulateur, selon la critique de la raison pure, mais aussi pour la faculté de juger réfléchissante, dans la troisième critique, sert de fil conducteur pour la connaissance des choses naturelles, ce qui n'est pas l'affaire de Kierkegaard. C'est donc, je crois, le concept régulateur dans le cadre de la deuxième critique, critique de la raison pratique, qu'il convient d'aller voir, qui traite du « comme si ». L'hypothèse de l'existence de Dieu est un « comme si », « als ob ». L'hypothèse de l'existence de Dieu comme souverain bien autonome. Chez Kant, le « comme si » de l'être suprême comme idéal, et donc usage régulateur, n'a trait qu'à l'agir moral, à l'éthique, à la religion dans les limites de la simple raison. Et il serait certain qu'il n'aurait pas vu d'un bon œil crainte et tremblement. Sans doute il y aurait-il vu fanatisme et superstition. Il y a des passages de Kant précis sur Abraham, puisque pour lui, l'ordre de Dieu reçu par Abraham n'est qu'une révélation purement humaine reçue par un inquisiteur, écrit Kant. Et la foi d'Abraham ne peut être qu'historique et phénoménale. Quant à l'ontologie kierkegaardienne, alors qu'en est-il de ce Dieu, s'il n'est que concept révélateur? L'ontologie, le plus brillant défenseur de l'ontologie kierkegaardienne, qui est chez Kierkegaard une ontologie, c'est contre Heidegger, c'est Henri-Bernard Vergotte, qui s'inspire et s'appuie fortement sur Michel Henry. Hubert Dreyfus, dont a parlé Bernard Lemaigre, lui aussi, dans sa lecture de la maladie à la mort, ne reconnaissait aucune teneur ontologique à la puissance qui a posé le soi. S'il faut entendre par cette puissance le Dieu créateur et providence, puisque Alsob, elle est seulement de l'ordre du comme-ci, pour Kant. Alors, c'est en bravant l'interdit kantien, en se libérant totalement du halte-là, de la critique de la raison pure, en abandonnant ce que Kierkegaard appelle la voie honorable de Kant, que la philosophie moderne est devenue théocentrique à nouveau, et cela, elle doit être tout simplement dite malhonnête, et malheureusement pour elle, fantastique. Penser Dieu dans l'idée, c'est en rester au possible, à l'hypothétique, 4C100, à la connaissance désintéressée, radicalement distincte de la connaissance intéressée qui n'apparaît qu'avec le christianisme, 4C99. Et je cite un autre texte, c'est du journal 7A139, immanent. Dans le médium fantastique de l'abstraction, Dieu n'a pas d'être de fait, er ictil, il est un er. Ce n'est que pour un existant, existerende, que Dieu est de fait, c'est-à-dire qu'il n'est de fait que pour la foi. Sans doute, l'hégélianisme a-t-il voulu penser à fond le scepticisme kantien. C'est dans le concept d'angoisse, tome 7, page 113. Il a voulu penser à fond le scepticisme kantien, on a parlé du scepticisme ce matin, et pour le réfuter, en posant, grâce à la méthode, une forme nouvelle de réconciliation du sujet et de l'objet. C'est le passage où Kierkegaard dit sa préférence pour Schelling et l'intuition intellectuelle à ce moment-là, plutôt que la méthode dialectique. Mais cette réfutation de Kant, écrit Kierkegaard, ne se produit que dans le cadre des Schattenspiel, des fantasmagories de la pensée pure. Elle est donc tout sauf une réfutation. Et alors il y a cette phrase que je tiens à citer de Kierkegaard. Le seul an sich, il met en allemand, le seul en soi qui se refuse à la pensée, c'est le fait d'exister avec lequel la pensée n'a rien à faire. Parole de philosophe, en soi. L'erreur de la méthode hegélienne dans sa volonté de dépasser Kant est de se croire à même, en redoublant de pensée, d'arrêter un scepticisme qui a mis l'embargo sur la pensée pure elle-même. Mais la skepsis est du côté des rebelles et garde toujours l'initiative, dit Kierkegaard, force la pensée à s'arrêter, ou plutôt nous invite fortement, ce n'est plus une citation, je commente, nous invite fortement pour trouver l'existence, non pas à une nouvelle manière de sortir de l'idée pour aller à l'existence, selon l'argument ontologique, d'aller de l'essence à l'existence, car cette évasion n'en est pas une, elle reste sur l'orbite de la théoria. La skepsis nous invite à n'y point entrer dans l'idée, elle nous conduit ailleurs, générant une autre passion et d'autres affirmations. Bref, elle nous force à parler autrement. Dieu est un nom que nous donnons à l'inconnu et les miettes, et un langage tout autre s'impose donc pour dire autre chose, tout en signifiant que l'on congédie les catégories de la pensée immanente. Un langage donc qui devra se faire et se dire algébrique, se jouant selon diverses catégories, essai, fantaisie, illusion, créant de nouvelles catégories, passage pathétique et dialectique, différence qualitative, paradoxe, absurde, saut, instant, etc. J'en viens maintenant un peu chronologiquement, puisque j'ai beaucoup fait référence au Philosophica d'avant les miettes, d'avant Climacus. J'en viens à Climacus lui-même, la fameuse phrase « Dieu n'existe pas, il est éternel ». Kant, qui pense honnêtement l'existence, a définitivement fait voir le statut de pure idéalité de l'essence qui enveloppe l'existence, Spinoza, du Dieu possible qui est eo ipso nécessaire, Leibniz. Comme l'enseigne Aristote, là, il se réfère à Aristote, seul existe l'enkelte, d'où la fameuse formule du postscriptum, Dieu ne pense pas, il crée, Dieu n'existe pas, il est éternel. distance prise, cette fois, avec Aristote lui-même, pour qui, précisément, le nous, l'intellect, est ce qu'il y a de plus divin, de plus excellent, métaphysique, l'âme d'un œuf, ce qu'il y a de plus excellent, non seulement pense de temps en temps, dit Aristote, mais ne pense pas ceci ou cela, mais est la pensée de la pensée, noésis, noéseos, noésis. Le dieu d'Aristote pense, le dieu de Kierkegaard ne pense pas. Il crée. Le texte du journal de 1846 que je vais citer est plus explicite encore. Je cite, « Immanent dans le médium fantastique de l'abstraction, Dieu n'a pas d'être de fait, il est. Il n'est que pour un existant. Ce n'est que pour un existant que Dieu est de fait. C'est-à-dire qu'il n'est que pour la foi. Quand, et il précise, quand un existant n'a pas la foi, alors Dieu n'est pas, n'est, ni n'est de fait, quoique sous l'angle de l'éternel, il soit éternellement. » Que penser, n'est-ce pas? C'est le texte, donc, de ma note 28, papyrus 7 à 139. Immanent ergut icetil, wactet Gott, donc ewig forstoet, ewig er. Il est éternellement, mais il n'existe pas. Dans le journal, c'est er icetil, mais dans le concept, dans la postscription, c'est exister. Oui, évidemment, cette formule, quand un existant n'a pas la foi, alors Dieu n'est pas. Et non seulement n'est pas là, n'est ni de fait, quoi qu'il soit éternellement. Évidemment, cette formulation, on peut surprendre et être dite non orthodoxe. Il y en a d'autres, n'est-ce pas? Par exemple, le fait, on l'a dit ce matin, Dieu, c'est le fait que tout est possible. Et il en irait de même, mais j'y reviendrai tout à l'heure. De toute façon, ici, évidemment, c'est sur ce texte que se basent ceux qui accusent Kierkegaard de subjectivisme. Hein. Et d'un subjectivisme doublé d'une ontologie et d'une métaphysique de l'éternité. Hein. C'est au fond le sens des objections. Chez Heidegger, il n'y a pas d'éternité, l'affaire est réglée à l'avance. Nous n'avons que Zeitlichkeit et temporalisation. Donc, d'autres formulations, j'y reviendrai. Donc, sans de Dieu qui n'est que pour la foi, on a vu un idéalisme subjectif chrétien opposé à l'idéalisme objectif autant qu'à l'idéalisme absolu, donc Schelling ou Hegel. Pour Kierkegaard, Dieu n'est là que pour la foi. Pour Hegel, Dieu n'est essence que dans la pensée. Mais philosophe, Kierkegaard est aussi philosophe, c'est pourquoi j'ai pris ce cheminement. Ce qui conduisait donc que, pour Hegel, Dieu n'est essence que dans la pensée, c'est ça qui conduisait Feuerbach à ne trouver chez Hegel que l'essence anthropologique de la vérité chrétienne. Pour parler de ce Dieu qui n'est que pour la foi, cependant, il y a encore un texte curieux dans le concept d'angoisse où Kierkegaard croit pouvoir en appeler à Hegel, je cite, « J'entends ici parfois ce qu'à sa manière Hegel caractérise avec une parfaite exactitude la certitude intérieure qui anticipe l'infini. » Là, il se trompe parce que le texte n'est pas de Hegel, il est de Schelling, mais enfin, peu importe, n'est-ce pas, c'est le texte de 1802, dans le Kritisches Journal der Philosophie, où Schelling et Hegel écrivaient ensemble sans signer. Et c'est donc du Schelling. Mais enfin, j'entends ici parfois ce qu'à sa manière Hegel caractérise avec une parfaite exactitude, la certitude intérieure qui anticipe l'infini. Alors donc, cette proposition « Dieu est éternel », assertion ontologique, point d'interrogation. Je rappelle ici, sans pouvoir développer, mais les divergences à cet égard concernant la notion de transcendance où s'opposèrent, dans une querelle mémorable, Johannes Sluck et Gregor Melanchuk. J'ai l'article ici de Melanchuk, 1975, Kierkegaardiana 9, Begriffe, les concepts immanence et transcendance, c'est Søren Kierkegaard. Avec une note sévère contre Johannes Sluck, son anthropologie de Kierkegaard. Pour Sluck, l'être de l'homme, ni l'être de Dieu ne sont déterminés comme des grandeurs ontologiques. La transcendance n'implique pas le concept métaphysique d'une réalité sensible, suprasensible, pardon, supramondaine. Donc c'est sur le concept de transcendance, immanence et transcendance. Et pour laver Kierkegaard de toute imputation de platonisme, Schlock avançait de manière, j'ai été voir les textes d'un peu plus près, de manière assez convaincante, les textes où le substantif transcendance ne dit rien d'autre qu'existence. La répétition est et demeure une transcendance. Transcendance aussi, celle qui annule l'innocence. Transcendance du péché qui entre dans le monde. Transcendance toujours entendue comme synonyme d'exister, de mouvement existentiel par excellence, sans détermination de contenu ontique. Transcendance est événement, action, et en effet, personnellement, je ne crois pas avoir vu de texte où Kierkegaard qualifierait Dieu de transcendant. Participe présent. Malanchuk, quant à lui, conférer une valeur ontologico-métaphysique au point archimédique à partir duquel peut se soulever le monde entier. Je cite Kierkegaard, bien entendu, ici, dans la répétition et puis aussi dans les papiers. Au point archimédique à partir duquel peut se soulever le monde entier, ce point qui ne peut donc être qu'en dehors du monde, hors des entraves du temps et de l'espace. C'est donc bien une détermination et une teneur métaphysique à laquelle Malanchuk tenait. Teneur métaphysique aussi du paradoxe, je cite, alors là, très connu, le paradoxe de Kierkegaard n'est pas une concession, mais une catégorie, une détermination ontologique qui exprime le rapport entre un esprit existant, connaissant, et la vérité éternelle. Le mieux en cette affaire serait, me semble-t-il, de s'en tenir prudemment à la notion d'éternité concrète. Pour un existant, la passion est à son maximum en tant qu'elle implique décision, répétition, en lesquelles s'exprime la passion et en lesquelles s'exprime l'éternité concrète qui assure la continuité. Postscriptum, tome 11, page 12. Ce sens de l'éternité qui est à distinguer radicalement du sub specie eterni, abstrait, ce sens de l'éternité est cependant métaphysique, au sens du texte de 1840 sur le métaphysique et l'historique. C'est dans 3, oui, 3 à 1. Le métaphysique, écrit Kierkegaard, est le ruban éternel qui lie ce qui est, sans lequel le phénoménologique tomberait bientôt en décomposition. Un autre texte est aussi à noter, sous le titre de 2 Corinthiens 5, 17, « Tout est nouveau dans le Christ », je cite Kierkegaard, « Tout est nouveau dans le Christ, ce sera mon point de vue pour une doctrine spéculative chrétienne de la connaissance. » Fin de la citation. De la vision spéculative de l'histoire mondiale, comme du tout est nouveau esthétique, se distingue radicalement, grâce à la validité du concept de révélation, la vision dogmatique, la nouveauté, dont l'humoriste chrétien est particulièrement conscient, qui est celle de la connaissance, je cite, « connaissance propre de Dieu, la métaphysique divine, la Trinité ». Chose inouïe jusque-là, et donc, en ce sens, nouvelle dans le Christ. Donc nous avons là des déterminations de Kierkegaard, n'est-ce pas, très, très précises, la métaphysique de la Trinité. C'est aussi dans un texte sur cette métaphysique divine sur la Trinité, intitulé « Le rapport à Dieu, le Père, le Fils, l'Esprit », qu'apparaît le thème et le terme de la majesté, majesté de Dieu. Dieu est d'une trop infinie sublimité, tel que l'appeler Père n'est qu'une façon de parler. Talmud. Seul peut, le Fils, lui qui est revêtu de l'infinie sublimité du modèle, le paradigme. Et j'en viens donc au texte du journal de 1854, Dieu, subjectivité infinie. Dans les deux textes sur Anselme, on lit ceci. Dieu, parce qu'il est infiniment loin d'être égoïste, et pourtant, il ne le peut autrement, l'infinie égoïté. On revient au problème de l'égologie. Dieu, parce qu'il est infiniment loin d'être égoïste, et pourtant, il ne le peut autrement, égoïté. Dieu est personnel, cela est incontestablement certain. Il faut donc en venir, et il y en a au moins deux textes sur Exode 3.14. Ego sum qui sum, ego eimi o on, dit la Septante, utilisant un participe. Ego eimi o on. Sum qui sum, je suis. Oh, combien de traductions? Schelling, je suis qui je serai, Schelling, n'est-ce pas? Enfin, bref, évidemment, vous connaissez le livre admirable, commentaire d'Exode 3.14 par un collectif du CNRS, paru il y a maintenant bien une quinzaine d'années, sur tous les exégèses possibles d'Exode 3.14, n'est-ce pas? Jusqu'à l'exploitation la plus massive qui a été faite par le, justement, à partir de Saint Thomas et les thomistes et notamment Étienne Gilson. Bon. Mais, donc, nous avons ici affaire à cette égoïté de Dieu, l'être qui dit, je suis. Ah, oui. Une parenthèse. Je suis, Jacques Derrida a écrit, la proposition, je suis, est l'aveu d'un mortel. Oui. Oui. Ah, oui. Le jeu, n'est-ce pas, dit au présent, dit précisément l'instantanéité de ce jeu, et de ce jeu dont Descartes dit ego, mais ego sum, mais qu'est-ce que je suis, d'ailleurs sum, que suis-je donc, res cogitans, ah, ça c'est autre chose. La pensée, c'est elle qui est immortelle, mais pas le ego du sum. L'ego du sum est mortel. Or, Exode 3.14 serait en première personne l'énoncé d'un immortel. Chose étonnante. Alors, dans les textes sur Saint Anselme, Kierkegaard écrit « Dieu, parce qu'il est infiniment loin d'être égoïste, est cependant l'infini égoïté, il est personnel. » Et ensuite, dans un texte de 1854, sous le titre « L'être sans prédicat », je cite « Jéhovah, Yahvé, dit « Je suis celui que je suis, point virgule, je suis, c'est l'être le plus haut. » C'est l'être le plus haut. Face à l'être, et oui, et il ajoute, face à l'être suprême, à l'être pur, nous pouvons tout au plus être quelque chose. Donc on peut prédiquer le je suis sans prédicat. Ensuite, autre texte, avec toujours le titre, ou en tout cas la mention de Exode 3.14, le je suis de la Genèse doit être dit une analogie avec le métaphysique. À savoir que cela, qu'est-ce qu'une analogie avec le métaphysique? Je continue la citation. À savoir que cela ne peut se démontrer, mais seulement se circonscrire, omscrire, à coup de périphrases tautologiques. Mais comme on sait, s'agissant de communication entre hommes, la tautologie ne peut être, ce qu'il y a de plus haut, dit Kierkegaard, comme ce qu'il y a de plus bas, l'infinie sublimité comme une baliverne, slouda. On peut aussi penser au passage des œuvres de l'amour qui, citant 1 Timothée 6,16, Dieu habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue et ne peut voir. Nul ne peut voir Dieu car les chemins de la lumière se transforment en ténèbres quand on se tourne vers leurs principes. Face à l'être sans prédicat, donc, la tautologie s'impose. Toutefois, Kierkegaard, me semble-t-il, ne va pas vers la théologie négative d'un Dieu au-delà de l'être, comme Plotin, il n'y a pas rien. L'un et le bien sont au-delà de l'être. Ce sont là, pour Kierkegaard, des noms de Dieu, sûrement, comme ceux d'origine testamentaire. Dieu est esprit, Dieu est amour, o theos agape estin, 1 Jean 4.8. Mais, ontologiquement, l'être le plus haut, que peut-on en dire? Eh bien, il va en parler. Il est subjectivité. Et c'est pourquoi j'avais commencé en citant le Spinoza, le subjectum. Appliquons à Dieu, et lié au thème de la souffrance et de l'amour, en appliquant à Dieu, en liant au thème de la souffrance et de l'amour, les catégories philosophiques de redoublement et de subjectivité. Elles sont infiniment développées, et particulièrement, pas infiniment, mais c'est précisément développé dans le journal de 1854, redoublement. Redoublement qui est duplicité, amour et cruauté, dureté et douceur. Mais on pouvait déjà lire dans La maladie et la mort, je cite à la page 280, « Ô œuvre unique de l'amour, insondable tristesse de l'amour, Dieu même ne peut pas, comme d'ailleurs il ne veut pas, il ne peut pas vouloir, même s'il le voulait, il ne peut empêcher que cette œuvre d'amour ne puisse devenir pour l'homme la dernière des misères, exactement le contraire de ce qu'elle est. » La maladie, page 280. La communication directe du point de vue explicatif traite sans détour, je cite, « la plus humaine, la plus inhumaine cruauté du christianisme ». Et cette formule arrive là où il évoque l'amour que lui portait son père et qui fit son malheur, d'où il conclut « c'est là, autant que je sache, la formule réfléchie que l'on n'a sans doute jamais encore donnée, mais pourtant normale, de l'amour ». Point de vue explicatif, tome 16, page 54-55. Et encore, beaucoup plus terrible, le papier 11-2-A-133, « La souffrance, qu'elle doive exister, cela tient à la majesté de Dieu. Cette majesté est si infinie que seul le paradoxe peut la caractériser ou en être l'expression, et le paradoxe, c'est d'être majesté jusqu'à devoir faire le malheur de l'aimer. » Comme le père a fait le malheur de son fils et comme Kierkegaard a fait le malheur de sa fiancée, non sans cruauté, il l'avoue à plusieurs reprises dans sa correspondance. Et autre formule encore plus curieuse que je cite parce qu'elle me semble importante, c'est dans le journal aussi 11-2 à 54 et 55. L'inconditionné, l'étant en soi pour soi, c'est un philosophe qui parle franchement, nettement, l'inconditionné, unbedingt, l'étant en soi et pour soi, est ainsi meurtrier pour un homme, treibend, meurtrier pour un homme. À la différence des majestés de ce monde, on ne peut adoucir le rapport à l'inconditionnellement inconditionné, car sans rien perdre de son infinie majesté, il est amour souffrant, comme je l'ai dit souvent, souffrant dans l'amour avec l'aimé. Alors, comment penser cela philosophiquement, puisque c'est l'être sans prédicat. Les prédicats divins, écrivait Henri-Bernard Vergotte, ont une valeur ontopoétique. Ils servent, je cite Vergotte, « ils servent moins à cerner la véritable nature de Dieu qu'à reconduire à l'expérience humaine de l'absolu. » Et il ajoutait ceci, la secunda philosophia peut opposer la nature de Dieu à celle de l'homme quand il lui arrive, Kierkegaard, à la secunda philosophia, quand il lui arrive, encore que bien rarement, et dans les seuls papyrus de 1854, de spéculer sur la nature de Dieu. Alors, avons-nous là une spéculation sur la nature de Dieu, si le terme nature, natura, fusis, s'impose en la circonstance. Il est vrai que les textes sur la majesté de Dieu, ou la cause de Dieu, Gud sei, en disent plus long sur l'adoration et sur les rigueurs de l'imitation du Christ que sur Dieu lui-même. Néanmoins, c'est là qu'apparaît reformulée avec insistance une certaine idée de Dieu. En écho au jeune Kierkegaard, je dois penser Dieu. Une certaine idée de Dieu. je cite, « Dieu est la subjectivité pure ». Alors là, on voit le texte comme il insiste, n'est-ce pas ? En danois, il ajoute « reine », « Dieu est la subjectivité pure », puis il ajoute « pur »,« idel », »,« pur »,« pour », hein, « subjectivité ». Il n'a absolument aucun être objectif en soi, car tout ce qui a une telle objectivité entre toujours par là dans les relativités, il est subjectivité infinie. Hein, c'est 46, donc 11.2a, j'ai oublié le numéro. On voit ici donc Kierkegaard traitant de Dieu. Il me semble que Hermann Deuser a raison quand il dit, on voit ici Kierkegaard, je le cite, « considérer comme nécessaire la construction d'un concept de Dieu qui doit aller au point qu'en Dieu-même, la dialectique puisse être comprise selon le concept. » Hermann Deuser, dans Dialectische Theologie, page 292. Par subjectivité infinie et redoublement, comme l'a exposé André Clair ce matin, puis il avait déjà traité la chose, nous avons affaire au renversement du principe de subjectivité, évidemment. Et en Dieu même, le paradoxe de l'objectif et du subjectif. Si bien, me semble-t-il, qu'il y a trois formes de paradoxe, comme peut-être, bien que on en discutait, il y aurait trois formes de religiosité, A, B et D, d'après Mérold Westphal. Est-ce qu'il n'y aurait pas trois paradoxes? Paradoxe socratique, le paradoxe eminentiori, le Dieu qui fait éruption dans le temps, et le paradoxe de Dieu lui-même. En Dieu même, le paradoxe de l'objectif et du subjectif. Et s'agissant du redoublement, on en a fait allusion aussi, André Clair, ce matin, il était fait allusion à la lecture par Kierkegaard de la mention du redoublement, Verdoppelung, par Ruge. Ruge, donc, c'est Anecdota zur Neuestische Philosophie, c'est dans la bibliothèque de Kierkegaard, et il avait ce livre, au numéro 753. Donc, il a lu attentivement Feuerbach, cité par Ruge, mais ce concept de Verdoppelung, d'où viendrait redoublement danois, Fordobelse, est déjà, évidemment, en bonne place dans la phénoménologie de l'esprit de Hegel. Le redoublement de la conscience, je cite Hegel, de soi, en soi-même, est essentiel au concept d'esprit. Le concept de redoublement a, évidemment, de multiples applications et occurrences chez Kierkegaard, notamment dans les œuvres de l'amour, temporel et l'éternel dans l'homme. Mais il se peut que l'exploitation du thème par Feuerbach, qui dans la théologie philosophique hegélienne évidemment ne voyait qu'anthropologie, ait orienté Kierkegaard vers l'idée d'un redoublement proprement divin. Parce que, selon Feuerbach, l'affirmation selon laquelle la conviction que la vérité n'existe qu'une fois oblige à exclure l'imaginaire position d'un être redoublé. Refusant Hegel. Alors, le redoublement de la conscience constitutive de l'esprit pour la phénoménologie de 1807 ne contraste pas absolument avec le Dieu est esprit du Nouveau Testament, de Jean 4, 24, à la Samaritaine, Pneuma Otheos, cité dans trois discours édifiants, 1843, Dieu est esprit, et ne peut donc témoigner qu'en esprit, c'est-à-dire en l'homme intérieur. Tome 6, page 84. L'esprit est évidemment le concept majeur de l'idéalisme hegélien. Et pour Hegel, évidemment, la foi, il en traite longuement, partiellement dans l'encyclopédie, mais surtout dans les cours sur la philosophie de la religion, l'esprit... La foi repose sur le témoignage de l'esprit qui, comme témoignant, est l'esprit dans l'homme. Je crois qu'Emmanuel Catin doit nous parler du témoin. Je ne sais pas s'il reviendra sur cet aspect des choses. L'esprit, comme témoignant, est l'esprit dans l'homme. Mais ce témoignage de l'esprit se voit aussi reporté en Dieu, pour Hegel lui-même, que je cite de citations des leçons sur la philosophie de la religion. Dieu est forme infinie, absolue, et c'est seulement une fois déterminé ainsi comme subjectivité absolue que l'esprit est esprit. Deuxième citation, la subjectivité infinie est la substance qui se divise, qui se fait son propre objet. La subjectivité absolue est le sujet comme tel, purement universel. » Fin de la citation de Hegel. Alors on voit donc ici Kierkegaard met en Dieu subjectivité et objectivité. Et Kierkegaard est incontestablement un héritier quant au philosophème. Mais évidemment, le pas est vite franchi qui ferait de lui un penseur prisonnier du système hegélien, de la subjectivité, pas trop vite franchi, me semble-t-il, qui fait de lui un prisonnier, je cite Heidegger, prisonnier du système hegélien de la subjectivité. Sans avoir à raffiner ici trop longuement sur le langage et les philosophèmes, le dire et le dit, Sprache und Sage, disons que les similitudes verbales et notamment l'usage du mot-clé de redoublement rend davantage frappantes les divergences, pour ne pas dire les ruptures. Hegel n'en vient pas au Dieu qui est subjectivité au sens absolu, ni à cette vérité qui habite qu'en réalité, en dernière instance, le singulier, qui est plus haut que le général, j'entends le singulier dans son rapport à Dieu, n'est-ce pas? Ça, c'est Hegel, c'est Kierkegaard que je cite, n'est-ce pas? 10, 2 à 426. Hegel n'en vient pas au Dieu qui est subjectivité au sens absolu, ni à cette vérité qu'en réalité, en dernière instance, l'enkelte, le singulier, est plus haut que le général, j'entends le singulier dans son rapport à Dieu. Donc le Dieu immuable est auteur de toutes les mutations, le Dieu immobile est une idée esthétique propre à la sphère d'existence du paganisme. C'est là un discours selon lequel toute action est d'extériorité. Concevoir le Dieu comme Aristote. Et je cite, « Le religieux réside dans la dialectique de l'intériorisation. Il se rapporte à la représentation, Vorstellung, représentation de Dieu qui lui-même est sujet de mouvement et de changement. » Et ça, c'est le thème, n'est-ce pas, qui apparaît ailleurs d'un Dieu qui se laisse mouvoir, émouvoir par la prière. Le redoublement infini exprime l'être même de la subjectivité infinie qui, n'ayant en soi aucune objectivité, est à elle-même totalement transparente. Que signifie dès lors avoir un rapport objectif à sa propre subjectivité dans ce texte, hein? Ayant créé le monde, Dieu l'abandonne à lui-même, comme le poète laisse aller son œuvre sans s'identifier à elle. Socrate est ici invoqué par Kierkegaard dans ce passage à titre d'approximation d'une relation objective d'une subjectivité humaine, non seulement à sa production poétique, mais à sa propre personnalité. Mais ce n'est là évidemment qu'une analogie lointaine du redoublement infini de l'être divin qui se rapporte objectivement à sa propre subjectivité, puisque sa seule passion est d'aimer et vouloir être aimé. C'est le même texte, hein, 11.2 à 98. Sa seule passion est d'aimer et vouloir être aimé. Les discours religieux le disaient déjà autrement. Je cite celui 61, discours religieux 15, page 120. Il n'y a pour le Dieu créateur, qui est infiniment le plus fort, un obstacle, il se l'est à lui-même imposé. Le Dieu créateur, il le pose chaque fois que vient au monde un homme, dont, en son amour, il fait quelque chose vis-à-vis de lui. Ô merveille de la toute-puissance et de l'amour. De là, l'interdépendance, Wechsel verhold. De là, on traduit l'interdépendance, qui sont traduits, de là l'interdépendance. Si Dieu était exclusivement le Tout-Puissant, il n'y aurait aucune interdépendance, car la création n'est rien pour le Tout-Puissant, mais elle est quelque chose pour l'amour. Discours chrétien. À propos du Wechsel verhold, je voudrais quand même citer, bien que je n'ai pas la référence exacte, je pense que c'est à la fin des œuvres de l'amour. Un texte très curieux. et qui dit que Dieu, en écho, répète les paroles humaines de clémence ou de condamnation. Et il ajoute, Dieu lui-même est à proprement parler cette pure réciprocité, d'être reine livre pour ligue, cette pure restitution, gengivelse, de ta propre manière d'être. Enfin, Dieu n'est que la pure restitution, la pure réciprocité de ta propre manière d'être. Fin de citation. Résonance, évidemment, réponse ou redonation, ou retour du même, mais évidemment, le contexte, les formules ont pu choquer, j'ai vu des auteurs se scandaliser de ce passage. Le contexte permet quand même bien de comprendre, malgré l'étrangeté de ces formulations, à quelle distance on se trouve ici d'une théologie qui ne serait justement au sens de Feuerbach que le revers d'une anthropologie. Mais cette dialectique de l'objectivité et de la subjectivité, l'homme Kierkegaard, me semble-t-il, la connaît aussi, cette dialectique du subjectif et de l'objectif, et pas seulement dans l'ordre de la pensée. On revient à des points abordés déjà ces jours-ci, à la mauvaise objectivation de l'existant qui se fait foule, masse, peuple, chrétienté, s'oppose, et Kierkegaard l'oppose parce qu'il la vivait, une bonne objectivation, l'objectivité de l'être vivant dans les tribulations en ce monde, mais cette objectivation dans les tribulations est en même temps subjectivation en acte d'amour, à savoir comme éternité concrète. On trouve des formules étonnantes, par exemple 11, 3b, 124, en tant que subjective, l'éternité est objective. Ce que le chrétien doit souffrir n'est rien comparé aux souffrances de l'amour divin. Autre texte du journal bien connu, être aussi immuable et en même temps être l'amour, souffrance du Père qui entend Jésus s'écrier « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Le devenir chrétien est lui aussi épreuve, tribulation, douleur et tourment à satiété. Et en réaffirmant encore cela, l'exercice en christianisme, composé en 48, gardait encore l'équilibre. Ce n'est pas le Christ, je cite, ce n'est pas le christianisme ou le Christ qui est cruel. Christ est douceur et amour. Sa cruauté vient de ce que le chrétien doit vivre en ce monde. Kierkegaard pensait donc encore aux blessures, écrivant cela bien sûr, on en a parlé aussi à propos du corsaire, aux blessures de sa vie publique, tribulation en ce monde, lors de l'affaire du corsaire. 7 ans plus tard, le dernier texte du journal est intitulé, 25 septembre 1855, est intitulé la détermination de cette vie du point de vue chrétien. Et la souffrance, la douleur, le malheur et le déchaînement de Kierkegaard à cette époque, qui prend en haine la vie, la procréation, le mariage, etc., sont des textes qu'on a vraiment peine à relire. Je cite, « Ce qui plaît plus à Dieu que la louange des anges, c'est l'homme qui, dans la dernière phase de sa vie, quand Dieu se mue en cruauté pure, et par la cruelle combinaison de cruauté, fait tout pour lui ôter toute envie de vivre, c'est l'homme qui persiste à croire, malgré tout, que Dieu est amour et agit ainsi par amour. » L'acte final de l'accomplissement, mais Fleming m'en parlait hier, est-ce encore l'accomplissement ? Une fois que cette page est tournée et que nous sommes au-delà d'Anticlimacus, l'acte final des œuvres d'accomplissement est quelque chose de tragique et d'apaisant à la fois. Alors que Kierkegaard n'a publié aucun livre depuis le 10 septembre 1851, là c'est quand il publie Pour un examen de conscience, il n'a rien publié pendant 4 ans, en août 1855, entre le numéro 7 et 8 de l'instant, il fait éditer le discours de l'immutabilité de Dieu, qu'il avait prononcé le 18 à l'église, qu'il avait prononcé le 18 mai 51 et qui me semble donc avoir été tenu en réserve pour faire partie, comme il l'avait noté en 1849, de ce qui paraît sous mon nom, en caractère, sonnant comme la finale d'un long effort. Donc, de l'immutabilité de Dieu. Alors, l'immutabilité de Dieu, je ne peux pas, évidemment, j'avais pensé, mais ça nous conduirait beaucoup trop loin, revenir au texte, évidemment, sur l'immutabilité déduite notamment chez saint Augustin à partir de Exode 3,14. Hein? Je suis celui qui est, je suis celui qui suis, il est vraiment l'immuable. Hein? C'est là qu'apparaît un mot, un apax pour le coup, id ipsum chez saint Augustin. Saint Thomas dit de Dieu l'ipsum esse, et saint Augustin dit id ipsum. C'est vraiment l'ipséité, n'est-ce pas, selon Augustin. Il reprend un psaume 122, dans la Vulgate, évidemment, Jérusalem, Jérusalem, cuius participatio eius in idipsum. Nous participons à toi, Jérusalem, en toi-même. Et je cite saint Augustin, le même, toi tu es le même, qui doit être compris comme le bien suprême et immuable. Tu les changes, ils changent, et tu ne changes pas. Tu audem idem ipse est. Tu es ipsum valde qui non mutaris. Donc, ipséité de Dieu à partir de l'Exode 3,14. Ici, l'immutabilité de Dieu, il n'est pas l'être qui ne change pas, il est amour, il souffre. Donc, le discours qui paraît sous son nom est un discours sur la puissance qui tient ferme quand tout vacille, le seul point d'appui quand partout s'étend le règne du nivellement. Et il porte en exergue l'épître de Jacques, évidemment. Tout don parfait vient d'en haut, tout vient d'en haut, du Père des Lumières. Tout à l'heure, il s'agissait de ténèbres, et on évoquait la mystique. Tout vient d'en haut, du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Verset déjà mis en tête des premiers discours, de 1843. Ce texte écrit Kierkegaard dans son journal 11.3b 289. Ce texte que j'ai mis en tête de mes discours, je pourrais l'appeler mon premier amour. On ne peut pas penser à Scribe, mais quand même, je pourrais l'appeler mon premier amour. Devant le Dieu immuable, Père des Lumières, nous sommes des ombres furtives qui se hâte vers l'éternelle clarté. Je l'évoque en souvenir de Grégor Malanchuk, qui, en me suggérant de le traduire, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'ai publié ça dans les années 60, en me suggérant de le traduire, me disait le tenir pour essentiel, parce que c'est lui qui nous fait percevoir, il y a un livre de Malanchuk, je l'ai apporté, sur une Kierkegaard's Kampf mot Kirchen, admirable. Je l'évoque donc en souvenir de Malanchuk qui, en me disant il faut traduire ça, je le tiens pour essentiel, disait-il, parce que c'est lui qui nous fait percevoir chez un homme profondément meurtri et trois mois avant sa mort, en proie extérieurement à des déchaînements de violence, mais de percevoir en même temps chez lui une étonnante sérénité intérieure qui ne pouvait avoir d'autre appui, d'autre raison d'être que la foi. Thank you.